Bienvenue dans On The Verge, le seul, l'unique, le podcast de la sexualité masculine. Déjà la quatrième saison, plus de 55 hommes qui se sont confiés à mon micro et ont livré avec authenticité et sincérité ce qu'ils ont de plus intime, leur sexualité. Je tenais vraiment à vous remercier, chers auditeurs et auditrices, car c'est grâce à vous que ce podcast entame sa quatrième saison. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcasts pour y mettre un avis et des étoiles, pas forcément besoin d'avoir un compte, et de parler autour de vous de ce podcast. Il est indépendant, comme vous savez, et ne peut grandir et gagner en visibilité que grâce à vous. Merci infiniment. C'est une quatrième saison qui va être riche en diversité, en messages et en rencontres. J'ai vraiment hâte de la partager avec vous. Je vous laisse avec ce tout premier invité qui inaugure la saison 4 de On The Verge. Quasiment un an, jour pour jour, pour trouver une date avec cet invité qui vivait en Côte d'Ivoire au moment de notre rencontre à Paris. Erland Deco, basque de 25 ans, a vécu et voyagé dans plus de 80 pays. C'est un véritable globe-trotteur passionné des rencontres, des cultures et des échanges. Étudiant en médecine et aujourd'hui CEO d'une start-up dans le médical, Erland Deco témoigne de son rapport facile au sexe, aux échanges charnels uniques et intenses qu'il vit en grande partie grâce au couchsurfing. Il vous partage aussi sa cocasse méthodologie de classification des partenaires qu'il a pu avoir et quelques anecdotes rocambolesques. Je vous demande, comme à votre habitude, de rester ouvert et bienveillant à l'écoute du témoignage de Erland Deco. Comme vous le constaterez, son champ lexical et sa décontraction pourraient heurter quelques sensibilités. Nous avons beaucoup parlé avant et après l'enregistrement ensemble. Erland Deco n'a pas souhaité s'étaler sur son histoire familiale douloureuse, mais il est évident que certains traumatismes et blessures vécues participent à la difficulté de trouver son équilibre et contribuent à sa façon particulière de consommer le sexe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour cet épisode, je suis avec, c'est toi qui vas le prononcer une bonne fois et après je le dirai.
Erland Deco.
On parle depuis je ne sais pas combien de temps avant d'ouvrir le micro. Je ne sais pas si tu es l'invité qui vient du plus loin.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tu vis en ce moment en Côte d'Ivoire pour tes projets professionnels.
Oui, c'est ça.
Et tu es d'origine française, tu viens de sud-ouest de la France.
Exactement.
Ton nom, c'est de quelle origine?
C'est basque.
C'est basque. Et tu me racontais un peu tout ce que tu sais, etc. Et c'est assez passionnant. Tu es dans le milieu médical. On n'en donnera pas beaucoup plus comme info. Et en tout cas, aujourd'hui, tu as la chance de vivre sur le continent africain. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Tu connais le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Alors, je suis dans une baignoire avec une petite fille qui a mon âge, j'ai 3-4 ans. Et en fait, ma mère avait une copine qui... elles alternaient, tu sais. Parfois, c'était la mère de l'autre qui gardait les deux enfants et on était toujours ensemble, on est le même âge.
Oui, ce que
et
tu disais, tu as été élevée seulement par ta maman.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai grandi qu'avec ma mère. Et par facilité, en fait...
Oui, elle se relayait.
Oui, c'est ça. Et je me souviens, dans la baignoire, en fait... Alors après, j'étais tout petit, j'avais 3-4 ans. Donc c'était en 98-99. J'ai probablement déformé 40 000 fois cette image, mais j'ai ce souvenir de la fille qui attrape ma bite et qui la tire.
Petit zizi à l'époque.
Ouais, non, exactement, mais pourtant j'ai cette impression qu'il, tu sais, il était élastique et,
oui.
Et j'en ai fait des cauchemars après, quoi, tout ça. Enfin, me dire, mais.
Laisse mon zizi.
Ouais. Et moi c'était pareil, hein. Je devais la toucher, quoi. Et ouais, ça, c'est mon tout premier souvenir.
Et après, c'est là où tu comprends que le petit garçon et la petite fille n'ont pas le même corps.
Ouais, exactement. Et je trouve que c'est super sain, en fait. Enfin,
ouais,
c'est trop
vraiment.
Beau, quoi. T'es dans une baignoire, t'es tout innocent et... Je sais pas,
ouais,
tu rigoles, quoi.
Ouais.
C'est beau.
Tu grandis donc dans le sud-ouest. Tu grandis dans un petit village.
Oui.
Donc, comment va commencer quand tu es enfant, pré-ado, ado? Donc, tu fais partie de cette génération aussi où l'accessibilité au porno, ou en tout cas,
un peu plus facile que les gens qui sont qui ont aujourd'hui une bonne trentaine passée. Comment ça se passe? Comment t'évolues? Comment ton adolescence commence, etc.
Donc si tu veux, il y a t'as vraiment une période où c'était un peu le néant. Enfin, attention. Ce que j'essaie de dire, c'est quand j'avais 6 ans, 7 ans, tu sais, dans la cour de l'école, là, je suis attiré par les filles. Je sais qu'à 6 ans, il y avait une fille qui s'appelait Lisa, je l'avais embrassée dans la cour de l'école, au fond. Mais elle avait un amoureux qui s'appelait Renaud, je m'en souviens. Après, tu vois, c'est là où il y a eu cette période de creux entre mes 7-8 ans et mes 14 ans, que en fait j'étais l'intello, genre j'étais, tu sais, le mec un peu bizarre qui avait les bons résultats.
Un peu nerd dans son coin.
Ouais, complet. Enfin, attends, complet. Non, pas du tout, parce que je faisais beaucoup de sport aussi.
D'accord.
J'étais pas le geek. Enfin, ouais, le terme nerd, en fait, je trouve qu'il est un petit peu... Je le maîtrise pas suffisamment. Non, j'étais l'intello, ouais, j'étais D'accord. l'intello. Et le regard des autres, c'était, ouais, lui, c'est le mec qui joue aux échecs, parce que je jouais beaucoup aux échecs. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait plein de championnats, et c'est trop cool. Mm-hmm. Et alors, en fait, il y a quelque chose qui est cool, c'est que les étés, sur la côte basque, donc ça, c'est plus, tu vois, vers les 13-14 ans, t'as souvent des colonies.
Ah bah, bien sûr, ouais.
Et là, t'as plein d'Espagnols qui débarquent sur les côtes, et ça, c'était splendide, quoi. Donc, t'as 13 ans. T'as pas le droit encore de trop sortir longtemps, mais quand même, on te laisse traîner 23
ans.
Ouais, alors ça, c'est très cool parce que j'ai grandi qu'avec ma mère, qui est assez extraordinaire, enfin, qui est même complètement extraordinaire, qui m'a tout expliqué. Enfin, quand j'étais tout petit, que j'ai posé des questions sur la sexualité, elle m'expliquait tout dans le moins de détails.
J'allais te demander justement comment t'as eu accès aux premières informations dans ton enfance.
Ouais, les premières informations, c'est ma mère. Elle m'a vraiment tout expliqué. Je me souviens, au bord du lit, elle me racontait tout. Mais je lui posais une question, je pense qu'elle abordait vraiment des détails. Je sais que c'est un tabou chez pas mal de personnes de parler de sexualité à la famille. Alors moi, j'avais que ma mère, j'ai pas de frère, pas de sœur, donc j'avais personne à qui demander. Et donc je pense que ma mère, en fait, a peut-être voulu prendre ce rôle un peu du père et elle expliquait certaines choses.
Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elle n'a pas laissé l'extérieur te polluer de, on va dire, de mauvaises informations ou de choses qui auraient pu...
Ouais, alors malheureusement, en fait, ça, si j'étais... Je me suis un peu pollué tout seul, ouais. Comme beaucoup de garçons qui ont accès à un ordinateur. Mais aussi par mes fréquentations, parce que je faisais pas mal de sport, je faisais du tennis dans une zone de non-droit, en fait. Enfin, dit comme ça, ça fait très genre, tu vas dans un endroit qui est super dangereux. En fait, c'est un quartier qui s'appelle Ousse-des-Bois, où je joue au tennis, qu'avec des maghrébins qu'avec des africains. Et c'est trop cool, parce que j'ai pu en fait avoir cette chance de côtoyer, tu vois...
Plusieurs cultures.
Ouais, et j'étais très jeune. Et je me souviens de manger chez des Camerounais des plats typiques. Donc, aujourd'hui, je travaille... Tu mentionnes la Côte d'Ivoire, mais je vivais en Côte d'Ivoire, mais je vis en fait dans un peu la sous-région, je n'ai pas une adresse fixe. Et en fait, j'ai cette chance, tu vois, de connaître un peu les spécialités de chaque endroit. Et en fait, bon, malgré tout, c'est quand même... mes fréquentations, si tu veux, à 12-13 ans, ils avaient tous déjà niqué. Enfin, c'était des films de cul, ils faisaient n'importe quoi. Enfin, ils étaient un peu laissés... C'était ouais. Des familles nombreuses, tu sais, quand t'as 10 frères et sœurs, ta mère, elle peut pas trop s'occuper de toi. Donc j'ai eu accès, en fait, à des infos qui étaient un petit peu dégueulasses.
Comment ça s'est passé, justement, cette entrée dans l'adolescence? Le changement de corps, etc. Est-ce que t'arrives un peu à te rappeler ce moment de sortie de l'enfance, début de préadolescence, adolescence, et justement intérêt pour tes potes qui regardaient du porno ou...
Oui, quand j'ai commencé, tu vois, avoir des poils et tout, je m'en battais les couilles totalement de ça. Ça me faisait plus chier, en fait, je pense, parce que j'étais bien dans mon univers. Tu vois, je prenais plus de plaisir à... Je sais pas, à niquer des gens aux échecs, pas du tout niquer
court.
Des filles, quoi. Et parce que ouais, je suis innocent. Et par contre, tu vois, les étés, donc là, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, je suis super content. Et quand je vois des Espagnols, quand je vois des Finlandaises, des blondes, des petites Barbies,
Là, tu sens que les hormones, elles commencent à faire le taf.
Ouais, complet. Mais par contre, tu vois, pendant toute mon enfance, quand je te disais là que j'étais pas du tout, cette période de creux. Toutes les femmes, en fait, elles m'attiraient. Elles m'attirent toujours toutes. Mais en fait, tu vois, j'osais pas, j'étais timide et je pense que j'avais pas vraiment compris. Mais en tout cas, j'ai toujours été intrigué par les femmes.
D'accord.
Tu vois, quand j'étais au collège, je me souviens, j'allais au CDI pour arracher les pages des magazines de surf, tu sais, où t'as quelques meufs en bikini. Parce que c'était trop beau, quoi. Genre, t'as 10 ans, tu sais.
J'imagine trop la dame du CDI. Mais c'est qui encore, tu sais.
Ouais. Non, okay.
Tu évolues un peu voilà, dans ce que tu racontes, c'est-à-dire la côte basque, tes potes qui sont dans cette zone de non-droit. J'ai une image vraiment du truc.
Tu sais, notre gouvernement, il va qualifier ça de bien non-droit, sûr. Mais en réalité, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Mmh. Après, c'est vrai que ouais, quand il y a une voiture de flic qui passe, on leur jette des pierres dessus. C'est un peu, mais bah, c'est oui. pas non plus pour autant le non-droit. Genre, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que. Et moi, j'ai cette chance ouais, de pouvoir y aller. Donc,
Et de fréquenter très jeune différentes cultures. Différentes familles, différents gens.
Ouais, exactement.
Et donc ces jeunes garçons, ces ados-là, eux, ont déjà une vie sexuelle active.
Ouais, carrément.
Ils te racontent ?
Ouais, ils me montrent aussi des vidéos. Ils me montrent,
donc du porno ?
Ouais, ils montrent du porno.
Tu te rappelles un peu comment tu réagis ?
En fait, au début, je veux pas voir. Ouais. Certains, ils acceptent. Mais en fait, ça me fait mal parce que je me dis, ouais, putain... Bah, je suis pas cool, moi, genre, j'ose pas regarder, je suis timide. Et évidemment, ma mère, elle me disait, ouais, regarde pas le porno, c'est si on te montre ça. Parce qu'elle se doutait, en fait, un petit peu, je pense que... Et après, ouais, j'étais dans un collège qui était médiocre, enfin, qui était vraiment banal avec des personnes qui étaient pas... Enfin, il y avait pas des personnes intéressantes autour de moi. Ça, c'était ma plus grande frustration au collège-lycée. Mes amis, tu vois, je les avais vraiment l'été sur la côte basque. J'ai deux, trois vraiment très bons copains. Dont un qui est parti en fait directement sur Paris, et c'est comme ça que j'ai pu passer pas mal de temps sur Paris. Mm-hmm. Pour revenir plus à ta question, comment je réagis, ben, ça m'intrigue, et donc avec un copain on décide d'aller sur des sites de cul.
Est-ce que tu te rappelles comment t'arrives à la masturbation, comment ça rentre dans ta vie?
Ouais, très bien. Bah, tu sais, comme tous les enfants, tu bandes pour pas grand chose, quoi. Et moi je trouvais ça assez sympa, quoi, de bander. Et alors, au début, en fait, tu vois, tu te masturbes, mais tu n'éjacules pas, parce que tu ne cherches pas à éjaculer. Et moi, ma première éjaculation, je m'en souviens toute ma vie, parce que j'étais en train de me doucher. Et tu sais, tu peux choisir l'intensité du jet.
Bien sûr.
Et je prenais un plaisir fou à me faire mal, en fait, à me mettre le jet à fond sur la bite. Tu sais, cette douleur, en fait, qui tu ne sais pas trop ce que c'est. Mmh. Et vraiment, mon corps... entier, il tremblait au rythme de ma queue, quoi, qui vibrait, tu sais, par le jet. C'était... En vrai, je faisais n'importe quoi. Je ne le referais pas, ça, aujourd'hui.
Oui, maintenant, mais tu sais qu'il y a des risques.
Et en fait, je sentais que ça pouvait toujours aller plus loin. Tu sais, cet orgasme, quoi, en fait. Là, j'avais, je pense, 13 ans à peu près, 13-14 ans. Et putain, et le jour
où
ça a lâché, ah, mais ça a été l'hécatombe. Non, mais il y avait du sperme partout. Non, j'étais ultra gêné, c'était affreux. Parce que
t'étais dans la douche en même temps.
Non, parce que ça s'arrête. Je te jure, la première éjaculation d'un homme, enfin moi en tout cas, c'était un bordel. Elle s'est pas arrêtée. Et tu sais, c'est dur. Tu lui dis pas genre arrête, genre ça continue quoi. Et donc tu paniques, donc t'en mets partout, tu te retournes, tu sors de là, vraiment il y a du sperme partout. Et évidemment il y a ta mère qui est à côté parce qu'elle entend, je fais tomber le pommeau de
tu
douche,
tu sors de la douche, qu'est-ce qui se passe?
Et elle me dit hey, c'est bon, t'es sûr? Et je lui dis oui, t'inquiète. Et,
j'imagine la scène.
Ce qui est marrant, c'est que je me suis dit juste après ça, donc j'essaie de tout nettoyer, mais c'est bien impossible sûr. Tu sais, c'est compliqué le sperme à gérer. Non, c'est vrai, le sperme c'est vraiment compliqué. Parce que très vite, ça se colle. Donc après, tu te retrouves à frotter avec tes doigts. Ça fait une sorte de petite gomme, tu sais. Mmh. Et vraiment, alors ça, c'est un truc, je me souviens, je voulais que ça s'arrête, mais je continuais à éjaculer, même sur les 10 secondes qui ont suivi, quoi. Donc c'était lourd. Et donc après, je frotte, je m'en mets sur les mains. J'ai déjà des poils, tu sais, donc je me frotte sur les poils. J'ai du sperme dans les poils.
Pour prendre une douche.
Ouais, non, c'est ça. Et après, ma mère qui vient et qui me redemande, eh, ça va, t'es sûr?
Ok, donc bon, bah, cette première donc, fois hyper mémorable. T'es dans l'adolescence, donc ton corps change, etc. Comment ça arrive, les premiers flirts, les premiers... Alors, il y a ces Espagnols, ces Finlandais, ces Suédois sur la plage. Ouais. Mais comment la rencontre avec l'autre sexe commence à se dessiner pour toi?
Avec l'autre sexe, Biarritz, c'est un super spot quand t'as 14-15 ans pour pouvoir sortir. T'as plein de nanas, tu t'en chopes une ou deux. Enfin, bon, une déjà, c'est déjà super quand t'as 14 ans.
Déjà, c'est super.
Tu parles avec des étrangères. Et j'ai la chance de parler couramment anglais et espagnol. Mm-hmm. J'ai toujours bien parlé, en fait, ces deux langues. Je me faisais souvent passer pour un surfeur. Je suis une merde finie en surf. Donc, ouais, comment ça se passe, ben, tu les dragues. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, tu as une facilité à séduire des femmes qui sont étrangères.
Ok.
Et je me retrouvais, je m'en souviens, enfin, il y en a eu des splendides, hein, vraiment, quand j'avais 14-15 ans, je me retrouvais à les choper sur la plage. Enfin, c'est trop beau, quoi.
Quand tu dis choper, c'est que tu embrassais ces filles ?
Ouais, juste embrasser, attention. Mais tu vois, au même moment, alors ça, c'était... J'avais mes premières fois, que ce soit ma première éjaculation, qui était assez particulière. Enfin, particulière, non, était assez intense, je dirais. Ma première fois que je me suis fait sucer, ça, c'était un truc assez... assez bizarre, enfin pas bizarre, enfin, c'était cool. C'était sur la grande plage en fait de Biarritz. Et donc c'est extraordinaire parce que là, tu vois, ces années-là, je suis encore fin collège, tu vois, et je peux sortir toute la nuit parce que en fait ma mère, elle me laissait faire, enfin elle était pas là. Donc elle me laissait faire ce que je voulais. Et donc on est sur la grande plage de Biarritz. Et vraiment, l'objectif c'était choper un max de meufs. Et après, t'étais le boss de la soirée si t'arrivais à partir et te faire sucer derrière les rochers, quoi. J'en sais, c'était le...
Et donc, c'était quoi la nationalité de la jeune fille
Elle était américaine.
Ok.
Elle s'appelait Abby.
Ok.
A-2-B-Y, je trouve ça magnifique. Mm-hmm. Elle était pas particulièrement jolie, mais je m'en foutais, quoi. Enfin,
qu'est-ce que la beauté?
Ouais. J'étais loin de réfléchir à ces questions-là. Hein. Mais c'était, putain, est-ce qu'il y en a une qui me suçait, quoi? Excuse-moi. Mais c'était vraiment ça. Et alors, cette pipe, je m'en souviens, parce que ça a été un truc... On peut en parler ou c'est interdit de parler?
On est vraiment complètement là pour ça, en fait.
Ouais. Non, en fait, je pense que parce qu'elle a fait, sans faire exprès, un des fantasmes que j'ai eu après, pendant un petit bout de temps. Donc, si tu veux, au début, donc, on va dans les rochers. Mm-hmm. C'est, je pense, il doit être 4 ou 5 heures du matin. Donc, il fait nuit, mais t'as quand même des spots de lumière sur les rochers. Et en fait, les gens te voient. Si tu te balades en fait sur à Biarritz, tu peux voir en fait ce qui se passe en bas. Donc quand c'est marée basse, tu vois ce qui est en bas. Et elle est en train de me sucer dans les rochers. Et c'était brutal en fait. Enfin, il y avait ce moment que je rêvais en fait, cette pipe. Je me demandais vraiment ce que c'était, ce contact entre une langue et un phallus, quoi. Et à la fin de la pipe, ça a été assez bizarre, mais elle a fait le coup du dragon. Tu vois ce que c'est? Quand t'éjacules au fond de la gorge et que la fille en fait peut pas respirer, elle vomit par le nez. Et bah en fait, elle a fait ça, et moi je savais pas ce qu'elle foutait, mais en fait, elle a vomi, elle s'est étouffée avec ma queue, quoi.
Bah, oui.
Et c'était la première fois que je me faisais sucer.
Et ça, c'était un fantasme que t'avais.
En fait, j'ai eu après ça, ouais, tu sais, genre une gorge profonde, et après tu t'éjacules avec la gorge profonde, et la fille, elle s'étouffe, mais avec son consentement, évidemment.
Bien sûr.
Et
je pense que Abby ne savait pas où elle allait à ce moment-là. Hein.
Ouais, bon, on était les deux pétés, j'en ai bien bu de l'alcool. Ça, c'était,
et donc, ça boire avec pas. Modération, bien sûr.
Oui, évidemment, avec modération. Surtout dans ces...
Surtout dans ces moments-là.
Dans ces soirées, ouais.
Ok.
Et voilà, il savait...
C'est aussi intense, hein, cette première fellation, également.
Ouais, putain. Et j'étais mal, pour moi et pour elle, parce que je comprenais pas, elle était hyper bien. Elle me disait... Je me souviens, elle parlait anglais, elle était super guérée, elle était contente, ouais, tout va bien. Et après, j'ai une grosse frustration, tu vois, parce que j'avais envie de cette pénétration. Genre, je la recherchais, quoi. Mm-hmm. J'avais envie, je me disais, ok, il faut tout faire. Genre, ok, c'est bien, t'as embrassé une fille, tu t'es fait sucer. J'ai fait un cuni, enfin, c'était pas avec Gabi, c'était plus tard. Mais si tu veux, c'était vraiment très ritualisé, c'était marqué, quoi. Enfin, ce qui était pas cool du tout, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une fille pour pouvoir la ramener chez moi, à Bidart, pour la niquer. Bah, c'était pas possible. Donc, j'ai eu, en gros, les années au lycée. Mm-hmm. Je me suis dépucelé.
Au lycée
Non, c'est pas au lycée, c'était aussi l'été. Vraiment, quand je suis...
Enfin, dans tes années
lycée. Ouais, c'est ça, c'est
fin du lycée. Donc t'as quoi, t'as 16, 17?
J'ai 17 ans. Alors, tu vas te moquer de moi.
Ah, moi, je me moque de personne.
C'était, je crois, 10 jours ou 15 jours avant que mes 18 ans, quoi.
D'accord.
C'était... Et je crois qu'il y avait cette barre de « il faut que je sois dépucelé avant les 18 ans ». Ouais.
Tu perds ta virginité avec... une jeune fille avec qui t'as une amourette ou...
Rencontrée en boîte, dans les toilettes publiques.
Grande histoire d'amour.
Ouais, un truc très beau, vraiment.
Hyper romantique.
Une belle histoire. Aussi belle que ma première pipe.
Je te demanderai pas si tu l'as présentée à ta mère, du coup.
Non, je me souviens même pas son prénom.
Okay.
Mais c'était pas un beau moment. Mais tu vois, c'était dans les toilettes, couchée par terre. J'avais même pas eu l'intelligence... Enfin, je me souviens, parce qu'elle, elle s'y connaissait mieux que moi. Moi, je manquais enfin, j'avais pas d'expérience, tout quoi. Et j'ai voulu niquer en missionnaire, en fait, dans les toilettes, ce qui est sale, par terre, quoi.
C'est oui.
Et je m'étais pas dit qu'en fait, tu pouvais utiliser tout le mobilier, genre le lavabo, les chiottes,
voilà, quoi. Le t'as pas vraiment le sens pratique, du coup. Hein.
Ah non, du tout. Moi, bon, après, là aussi, je me sens bête, mais je bois beaucoup d'alcool. Enfin, je buvais... Attention, je suis pas alcoolique, mais j'ai besoin quand même de mettre...
C'est une phrase d'alcoolique, hein. Je ne suis pas alcoolique.
Ouais. Non, mais la phrase qui va suivre, elle est pire. J'allais te dire, je me mets juste une murge toutes les 3 semaines, quoi.
Tu fais cette première fois avec cette jeune fille.
Ouais.
Tu te protèges ? T'as un souvenir quand même de cette première fois, malgré le sol qui colle et les renvois de Sky Coca?
Elle était brune.
Mais au-delà de ça...
Ouais, non, pas du tout, en fait.
En fait, je ris beaucoup. Faut que je l'explique aux auditeurs et auditrices. C'est qu'en fait, quand on te voit, on ne peut pas imaginer que tu vas parler comme ça. T'as l'air tellement d'être un premier de la classe avec les cheveux sur le côté, les petites lunettes, la petite chemise, le pantalon, la petite tête un peu de tu vois, angélique et tout, que c'est assez... Enfin voilà, le grand écart est assez intéressant. Donc j'ai un peu du mal à garder le fil.
Ouais, mais tu vois, moi ça m'embête beaucoup aussi, parce que en soirée, quand des filles, elles me voient... Parce que voilà, j'ai ce petit côté intello. Moi, ça m'embête parce que... J'aimerais bien, tu vois, avoir ce côté un peu plus bad boy.
Ou c'est mais marqué sur ton front.
Ouais, exactement. Si tu veux niquer, viens. Enfin, ça serait ouf.
C'est peut-être ça aussi qui fait ta facilité de voir les filles. C'est qu'elles vont vers toi en hyper safe. Une fois que t'as eu cette première fois, comment le sexe rentre dans ta vie?
En fait, à ce moment-là, je rentre en première année de médecine.
Ok.
Donc, c'est une année qui est pas supposé être très cool. Moi, ça a été une année qui était dure. Pas pour ça, parce que j'ai... Le 15 octobre, enfin, je me souviens de cette date, puisque j'ai un ami qui s'est donné la mort. Donc, c'était dur pour cette raison-là.
Ouais,
c'était
une année compliquée.
Ouais, et ma mère qui a été... qui était malade, qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Donc, c'était pas évident non plus. Et ma mère, c'est la seule chose, en fait, hein, que j'ai. Donc, ouais, c'était dur. Mais après, par rapport aux filles, ouais, j'ai pas trop la tête à ça. En fait, j'avais plus niqué là dans les toilettes pour me dire... Et la première année de médecine, ouais, je me dis, bon, écoute, tu bosses. Je me souviens, à une soirée post-partielle, avoir niqué dans un parking. C'est la deuxième fois que j'ai niqué une des filles de ma promo. Et j'étais vraiment gêné. Alors, une nouvelle fois, je m'en veux, tu vois, en te parlant d'avoir autant picolé quand j'étais petit, mais j'avais passé 2 mois à me demander après, mais qui est cette meuf que j'ai niqué dans l'amphithéâtre? Et je savais pas. Et c'est à la fin de l'année... Où en fait, en me parlant, j'ai compris qu'en fait, c'était elle. Et c'était débile. C'était débile de s'être...
Enfin, elle se souvenait.
Oui, oui, très bien. Moi, d'accord. Pas du tout. Et en fait, je pense que j'avais été nonchalant, parce que parfois, elle me regardait, je ne vais pas la regarder. C'était pas méchant, mais bon, c'était...
Pourquoi
c'était...
Après, tu buvais autant?
Ok, il y a 2 raisons. Je pense que c'est une très bonne façon de se réfugier quand on n'est pas bien de boire. J'idolâtre dans ma vie une personne. J'ai une personne qui est proche de mon entourage, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui buvait beaucoup d'alcool quand il était jeune, qui aujourd'hui exerce dans le milieu médical. Et il buvait beaucoup d'alcool, enfin il est basque aussi. Et donc clairement je m'étais dit que je voulais être cool comme lui. Donc,
d'accord.
Ouais, et en fait ma mère, sans faire exprès, me parlait de lui, donc ça a augmenté un peu, elle me parlait de lui comme un grand dieu. Et je trouve qu'en vrai, bon, je fais pas du tout, tu l'as rappelé tout à l'heure et c'est important de le dire, hein, boire, c'est pas toujours très bien.
Alors,
comment tu le formules mieux? Comment?
Il faut boire avec modération.
Voilà, boire avec modération. Sauf dans certaines...
Bon. Qui est modération, c'est surtout.
Oui, exactement.
Et donc, c'est une année qui n'est pas facile. Et donc, comment tu continues tes études?
Et là, ça commence à être bien sympa. qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, je rencontre une personne qui est devenue... Un très bon ami, qui en fait était en 6e année, quand moi je rentre en 2e année.
C'est en combien d'années la médecine?
Ça dépend ce que tu fais comme spécialité, c'est entre 10 et 12 ans. Et en fait très vite il m'aime bien, on sympathise, même si je suis quand même bien plus jeune que lui, il a 50 plus. Et en fait il me prend un peu, il m'invite tu vois à ses soirées, et je trouve ça cool. Alors je suis un des rares mecs que tu vas interviewer qui va te dire que les soirées médecine elles sont pas terrible, mais en tout cas quand j'étais en 2e, 3e année les soirées médecine, en fait je trouvais que les gens ils étaient, enfin je m'attendais à des soirées où tout le monde allait boire et niquer à fond.
La thématique de cet épisode pour le moment.
Ouais. Et en fait.
Pas tant.
Ben non, les gens ils se chopent et après ils se ramènent l'un va chez l'autre et ils vont niquer, mais de façon très douce quoi. Moi, je voyais vraiment la belle orgie, quoi. Et c'est plus, tu vois, avec mon ami qui est en 6e année où j'ai pu aller faire des trucs plus sympas. Et surtout...
Toujours dans des soirées avec des étudiants en médecine?
Et non. En fait, il fait du couchsurfing. Alors,
okay.
J'en parle. Le couchsurfing, ça a beaucoup évolué. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une solution où, en fait, tu vas dormir chez les gens. Donc, tu vas héberger, en fait, des étrangers. gratuitement. Si tu veux, c'est comme du Airbnb gratuit. Mm-hmm. Donc au début, tu te dis, mais pourquoi ? Genre, quel intérêt de faire ça alors que tu peux te faire des thunes ? Et en fait, tu comprends que c'est vraiment très cool quoi, d'héberger mm-hmm. des étrangers et des étrangères mm-hmm. chez toi. Et donc, lui, il avait toujours, même si tu es en sixième année, qu'à la fin de la sixième année, tu as un gros concours en médecine, il hébergeait tout le temps des étrangers. Et c'était magnifique quoi, de voir en fait, autour d'une table une personne qui vient des États-Unis, une personne qui vient de... J'en sais rien. Mais il arrivait toujours à avoir simultanément deux ou trois étrangers chez lui. Et dès que j'allais chez lui, ne serait-ce que pour boire un verre, il y avait...
toujours du monde.
Ouais, un Italien qui faisait une pizza. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était... Et je me suis dit, waouh, ok, je vais faire la même chose, je vais héberger des personnes.
Ouais, parce que l'idée du coach surfing, si je ne m'abuse, c'est ça, c'est de mélanger un peu les cultures, les traditions, etc. Et c'est surtout des jeunes entre eux qui n'ont pas trop les moyens et qui préfèrent effectivement... crécher chez l'habitant entre guillemets, et en échange il y a un moment de partage qui se passe quoi.
Ouais, exactement, c'est ça, et c'est ce que j'ai adoré en fait dans le couchsurfing. Donc au tout début,
donc tu t'inscris sur le site, c'est tout simple.
Ouais, mais par contre maintenant ça a changé, il faut payer et tout. Okay. C'est avant c'était un projet qui était pas à des fins lucratives, donc c'était très sain, c'était une
très
communauté
altruiste,
quoi. Ouais, exactement.
Okay.
Aujourd'hui je cherche à gagner de l'argent, donc j'aime beaucoup moins et j'utilise plus leur plateforme. Mais je continue à héberger des personnes gratuitement chez moi, enfin, c'est assez cool. Et la personne, elle vient, si elle est sympa, bah, elle va t'aider pour aller faire les courses, elle va te cuisiner sa spécialité de son pays, c'est trop cool. Hein.
Ouais.
Et en fait, ouais, très rapidement, je me suis dit que j'allais héberger des personnes, donc dès que je suis entré en deuxième année, j'ai commencé à héberger des personnes, et j'ai aussi voyagé. Donc là, tu vois, j'ai 19 ans à l'époque, mm-hmm. et c'était trop bien. Parce que j'ai
fait des rencontres.
Ouais, j'ai fait un premier. En fait, ça a été toute ma, enfin, une bonne grosse partie de ma sexualité. Ça, enfin, si tu veux, il y a, je sais pas, on peut dire trois piliers, mais mm-hmm. t'as Tinder, mm-hmm. la solution vraiment rapide, efficace. Enfin, pas efficace parce que qualitativement, en fait, j'ai jamais niqué des meufs extraordinaires sur Tinder. Tu disais tout à l'heure que j'ai un côté un petit peu intello, un petit peu geek. Ok. J'ai un fichier Excel où je répertorie toutes les nanas en fonction des pays et les notes que je leur donne.
Ok, tu donnes des notes. C'est quoi une meuf extraordinaire ?
Une 199.
Ok, une 199. Alors
en fait, ce système de codification, je l'ai fait avec un ami à moi qui est dentiste. Enfin, aujourd'hui, il est dentiste, avant, il n'était pas. Et ouais, en fait, on a mis en place un classement pour, en soirée, savoir... En fait, on avait ça depuis quand on était gamin, quand on te parlait des Finlandaises, des Suédoises.
D'accord, il y avait
en fait...
déjà ce système de...
Ouais, en fait, c'est un système de codification pour dire, oh, putain, celle-ci. Donc, si tu mets un 1, un 0, un 1, si c'est le 1, ça veut dire, je veux la niquer.
Okay.
À l'époque, c'était juste « je veux l'embrasser hein, », mais c'est, t'as
ça
compris
évolué,
l'idée.
Bien sûr.
Ensuite, c'était le corps. Donc, de 1 à 9, tu mets
bien
le corps.
Sûr.
Et ensuite, la beauté du visage.
D'accord.
C'est, quand même, c'est important. Un petit peu. Et donc, ouais, et comme ça, on évaluait. Et avec Flo, donc mon pote, on se disait « ouais, putain, 199, c'est
ah
le
oui, c'est le Graal, quoi.
Ouais, ah oui, on n'en a jamais connu, de 199.
D'accord.
À la 199, ouais.
C'est... Ok, c'est intéressant, cette codification. Je ne la connaissais pas.
Ouais,
okay.
ça doit surprendre pas mal de personnes, mais en vrai, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui... Enfin, on a tous ce système de classement, j'en parle avec
alors,
des copains aujourd'hui.
Tous et toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas.
Il
y en a, c'est peut-être un peu plus instinctif, je ne sais pas. Là, c'est vrai que ça fait un peu comptable, quand même.
Ouais, ouais, c'est très mathématique, mais c'est super intéressant quand
tu c'est
commences...
pratique, du coup.
Très intéressant quand tu veux faire des études statistiques.
Bien sûr.
Non, mais écoute, vraiment, c'est... Si je compare les notes que j'ai attribuées aux filles françaises avec qui j'ai niqué, avec les filles d'Amérique du Sud, où,
bien sûr.
Elles ont toujours deux points de plus, les sud-américaines. Mais non, mais elles sont bien plus bonnes.
D'accord.
Genre, elles sont plus belles. J'enlève tout le côté séduction et j'enlève au lit. Ça, on pourra en reparler, mais une latine, enfin, de mon expérience en tout cas, mais même, c'est une réalité, quoi.
D'accord.
Elles sont beaucoup plus calientes. Enfin, je vais finir mes jours là-bas, en Amérique du Sud, parce que c'est, c'est magnifique. Bon, pour revenir là sur ce que je te disais, et c'est un peu ce qui m'a amené, en fait, à vouloir venir sur ton podcast. Voilà, j'essaie de dire que quand j'étais au collège, en fait, j'étais pas... trop bien au lycée non plus avec les personnes que je fréquentais, mais par contre les étés c'était trop bien parce que je voyais des femmes étrangères et que j'étais super à l'aise avec elles, et elles étaient belles et je les chopais, mmh. et tu vois, j'y arrivais très bien à ça. Mais par contre, tu vois, avec des françaises, en fait le niveau il est super haut en France quand t'es un mec, genre t'as plein de beaux mecs autour de toi, et les femmes françaises elles ont plein de beaux mecs qui tournent autour d'elles. Si tu commences à sortir de chez toi, que tu vas, que tu te retrouves. J'ai beaucoup voyagé et quand je suis allé dans des pays vraiment bien paumés, que t'es le grand blond, tu es différent, tu plais.
Et, bien sûr.
Et en fait, ce qui était cool pour venir au couchsurfing, ce que j'ai fait, c'est que là, c'était l'inversion des rôles. C'était les étrangères qui venaient chez toi. Donc déjà, en fait, tu te sens un peu redevable parce que personne ne t'héberge gratuitement, c'est cool. Et en plus, c'est trop simple quoi, pour choper des filles comme ça. Parce que...
Et systématiquement, tu chopais les nanas ?
Non, pas systématiquement. Mais c'était très fréquent quand même.
Tu pouvais avoir quand même un échange amical avec une fille, c'était tout à fait possible.
Ah ouais, complètement. Ah
d'accord.
Oui, oui.
C'était
ah
pas
oui.
Une fin en soi d'avoir forcément un rapport avec cette fille.
Ah non, que dalle. J'hébergeais toutes les personnes qui me demandaient, que ce soit des hommes ou des femmes. Enfin, je faisais okay. Aucun filtre. Mais par contre, j'avais, je te jure, 90% de femmes sur les demandes. La parité n'était pas du tout 50-50.
D'accord.
C'était majoritairement des femmes. Et j'ai souvent sondé ces personnes-là qui venaient chez moi. Pourquoi ? Et en fait, on se sent beaucoup plus à l'aise souvent sur un sexe différent quand tu voyages.
Okay.
Et ce qui moi me surprenait,
moi aussi,
parce que je me disais, bah, tu as peur un peu au début. Et en fait, quand tu commences le couchsurfing, surtout quand tu es une femme, tu sais, c'est un peu plus dangereux
bien
parce que tu as pas mal de personnes. Tu as peur un peu de voyager tout seul. Et en fait, les filles, elles m'ont expliqué que la première fois, elles vont toujours chez des femmes. Puis après, elles réalisent qu'en fait, c'est pas dangereux. Et sur Couchsurfing, ce qui est bien, c'est que tu as des références. Donc en fait, dès que tu vas dormir chez quelqu'un, après, tu
oui,
laisses
un
message.
Oui, un peu comme
Airbnb, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai plus de 200 références. Donc en fait...
Ouais, les gens sont rassurés.
Ouais, t'es pas inquiet. Mais très souvent, ça apparente à du sex surfing, mais c'est... Enfin, les deux parties ont son demandeur. Enfin, c'est...
Ouais, c'est comme Tinder. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est assez explicite.
Ouais, il n'y a pas de... Bon, après, si, Tinder, c'est carrément explicite. Tu vas sur Tinder pour niquer.
Il y a encore des gens qui vont sur Tinder pour faire des rencontres avec amicales. Hein.
Ouais, ils font chier. Hein. Bon,
après, tu mets ce que tu veux dans l'amitié, hein, mais...
Ouais. Non, mais couchsurfing, ça soit clair, hein, le but premier, c'est pas du tout pour niquer. C'est juste que t'as des personnes qui ont envie de voyager et s'éclater en même temps, et c'est cool, il faut que ça perdure. Mais moi, tu vois, c'était la première couchsurfing que j'ai hébergée chez moi. Elle s'appelait Maria. Elle était venue chez moi à Bordeaux. J'avais 19 ans, tu vois, c'était en deuxième année. La fille est extraordinaire. Alors, elle avait déjà fait une rhinoplastie. Elle s'était déjà refait de faire le nez.
Mm-hmm.
Maintenant, elle s'est déjà refaire les seins et les fesses. Je suis allé la voir en Colombie il y a 3 ans. Ça. Et je la reconnaissais, toujours très belle, mais gonflée. Et ouais, et la relation que j'avais avec elle, c'était... je crois que c'est une des premières fois où j'ai vraiment pris du plaisir à niquer.
Ok.
J'étais très frustré par les filles que je rencontrais sur Tinder, qui étaient de Bordeaux, qui étaient des étudiantes aussi, qui avaient mon âge. Vraiment, je ne m'y retrouvais pas du tout, ni au cul.
Comment tu l'expliques ?
Mais je n'aimais pas parce que c'était très protocolaire, en fait. On se tchatche, on rigole, et après, bah, qu'est-ce qui se passe ? On s'embrasse, on fait les prélis, on fait une pénétration vaginale. Et ensuite, l'homme éjacule, même pas forcément la femme, même si tu essaies de la faire... C'est tellement normalisé, aussi bien homme que femme, que l'acte se termine quand
éjaculé,
ouais, ce qui est terrible. C'est juste que je trouvais nul. Genre vraiment, je prenais pas plaisir. J'allais sur Tinder, je te le dis, hein, j'en ai un peu honte, mais c'était pour faire du chiffre. C'était, mais comme beaucoup de mecs, je sais pas beaucoup, mais en tout cas, mes potes à moi, j'avais quelques copains, c'était la quête de la performance, du nombre, et aussi vouloir apprendre, clairement. Parce que j'apprendrai toujours dans ma vie et c'est trop bien en fait de juste avoir des relations pour apprendre.
Mais tu te sentais quand même frustré avec ces partenaires-là.
Ouais, carrément. Ouais, vraiment, j'étais blasé. Et par contre, en couchsurfing, là c'était assez le régal.
Donc avec Maria par exemple, c'est quoi la différence notable ?
Ok, j'ai dit un truc, mais c'est la passion pour le cul. Genre c'est un sexe qui est beaucoup pas plus sale, quoi, mais qui est beaucoup plus libre. T'es beaucoup plus à l'aise. Des deux côtés. Et t'as une symbiose en fait, les deux corps qui vont être beaucoup plus ensemble. Et ce qui est magnifique aussi quand tu niques avec une étrangère, c'est la langue parlée, quoi. Entendre une française au lit, vraiment, c'est. Je sais pas, c'est du français, quoi. Je parle déjà le français, c'est sympa. Mais quand t'as une espagnole qui va te murmurer à l'oreille des saloperies en espagnol, ouais, ça me rend complètement fou. Et c'est trop agréable. Et pareil, enfin, avec toutes les langues, avec les Russes, avec les... Non, vraiment, c'est...
C'est génial parce que tu peux faire une cartographie du cul à travers le monde. C'est ça qui est génial.
Ah ouais, complètement, oui.
Ok.
Donc
ouais,
j'ai pas fait tous les pays, hein, malheureusement.
c'est ton objectif ?
Ouais, clairement.
T'as une carte où tu mets des croix ? un tableur, ouais, Excel, pardon. Alors,
Il y a rien en fait de mauvais. C'est plus pour garder un souvenir aussi de la personne. Genre j'ai une colonne remarque et je note vraiment en fait ce que j'ai appris par la personne et je trouve que c'est super enrichissant.
Qu'est-ce que t'as appris ?
Ok, bon, on va rester sur Maria. Genre Maria, après j'étais très jeune donc je découvrais le cul. Elle avait une façon en fait pour toucher le corps de l'autre que j'avais jamais ressenti en fait qu'on pouvait par les caresses, en fait, procurer autant de plaisir.
Une intensité dans sa façon de toucher.
Exactement. Ce qui était dingue, c'est qu'elle avait un an de moins que moi. Elle avait 18 ans. Et elle avait déjà une expérience. Elle m'avait dit qu'elle avait déjà niqué 10 fois. Et... Enfin, c'était de la folie furieuse, vraiment, quand on avait niqué. Enfin, je m'en souviens, au réveil, elle m'a fait une fellation, ce qui n'est pas forcément étrange, mais elle prenait des selfies d'elle en claquant ma queue sur sa langue. Et je me souviens me regarder, limite consterné, genre, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, elle se regardait sous tous les angles. En fait, elle se filmait pas. C'est juste qu'elle s'aimait. Tu vois, donc elle m'avait fait vivre quelque chose en fait par son toucher. Ouais. Et chaque personne en fait t'apprend des trucs. Alors évidemment, t'as pas toutes les filles qui vont t'apprendre un truc, mais.
T'as eu combien de filles avec qui t'as couché ?
Avec qui j'ai couché ? Après, peut-être juste en parler, mais quand j'ai voyagé, je suis dans pas mal en Europe de l'Est et en Europe de l'Est, t'as les darkrooms. Je sais pas s'il y a des personnes que t'as interviewées qui t'ont parlé de ces endroits.
Les darkrooms ?
C'est pas des clubs qui sont dédiés au cul, c'est souvent des boîtes de nuit. Mm-hmm. Et à l'arrière de la boîte de nuit, t'as une salle qui.
T'as des backrooms dans les clubs gays en France ?
J'ai jamais fait de club gay. Je suis pas gay. Mais en tout cas, t'as
merci pour cette précision.
Tu as des dark rooms. C'est des endroits qui sont éclairés avec des lumières noires. Tu rentres avec une partenaire, ton ou ta partenaire, tu t'installes. Donc tu batailles à trouver un endroit où tu peux t'asseoir. Donc, tu dois y aller au toucher, c'est marrant. Et dès que t'as trouvé ton spot, bah, tu commences à niquer avec la personne. C'est de l'échangisme après. Parce que c'est particulier quand même. Parce que tu sais pas.
Tu vois pas les gens ?
Tu les vois pas du tout, non, non, non. Ah. Et moi, la première fois que j'y vais, je comprends rien. Je suis dans la boîte de nuit. Je me dis, tiens, c'est cool, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et je sors mon flash, tu sais. Et j'ai cette image, tu sais, de vraiment tout le monde qui nique partout, quoi. Trop beau. Enfin, mais tout le monde. Enfin, je comprends qu'il faut vite éteindre. Il y en a un, il me dit, arrête, ok. J'étais avec une fille que j'avais rencontrée le soir même, prenait de l'AMD. Enfin, c'est pas mal d'acide et pas mal de drogue dure.
Donc la drogue, c'est mal aussi. Ok. Et donc les dark rooms, donc ça, c'est dans tous les clubs d'Europe de l'Est ?
Non, non, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, j'ai dû en faire 4 ou 5, je pense, en Pologne, et après aussi dans des pays qui sont un peu plus... En Russie, j'en ai fait aussi à Moscou. Alors ça, c'était particulier parce que c'était avec une fille que j'ai beaucoup appréciée dans ma vie. Et donc, pour revenir là, sur les darkrooms, pour revenir à ta question, je ne sais pas combien de filles j'ai niquées, mais je suis autour de 100. Mais là, maintenant, je vis en Afrique. Et j'ai un pote à moi qui est réalisateur. Parfois, on parle de cul. Il vient d'avoir un enfant. Ouais. Et il me dit... En fait, donc lui, par rapport à ses relations sexuelles, il en a eu beaucoup plus que moi. Après, il a vécu 20 ans en Afrique. Il me dit, mais fais les calculs de secondes, quoi. Tu vas niquer une fille chaque week-end. Ça fait 50 à l'année. Si ça fait 20 ans que t'es là, ça fait 1000 femmes que t'as niqué. Et c'est vrai que dans certains pays, alors l'Afrique, on va peut-être en reparler parce que les filles, elles s'intéressent à toi, peut-être pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Donc, est-ce que t'as du mérite ? Est-ce que c'est gratifiant d'avoir un coït pour d'autres raisons ? Je pense pas. Pas forcément l'argent, mais parce que quand t'es blanc, t'incarnes le pouvoir, tu as les papiers. Donc, les filles, elles rêveraient, les locales, d'avoir un enfant avec un blanc pour plus tard avoir les allocations du petit. Mais en tout cas, en vrai, c'est tout le monde peut faire, tout le monde peut niquer, s'il le veut, une fille par semaine. Genre, vraiment, tout le monde. Il faut juste le vouloir, il faut s'en donner les moyens.
C'est ça.
Mais si t'as envie, tu peux le faire. Donc, moi, c'est vrai que je m'étais dit quand j'étais petit, ce que j'idolâtrais, là, je te parlais de ce mec qui était en 6e année, qui aujourd'hui est psychiatre.
Ok.
Enfin, ouais, lui aussi, il en a niqué beaucoup. Et c'est lui qui me donnait envie, je pense, de niquer beaucoup. Parce que, voilà, j'admirais des personnes qui niquaient beaucoup. Mais j'ai pas niqué parce que j'admirais des gens qui niquaient, mais parce que c'est cool, quoi.
Pourquoi tu te refuses de mettre du sentiment dans tes coïts ?
Ok.
C'est très affirmatif, mais parce que. Dans ton lexique, dans ta façon de parler, dans ta façon même de le raconter, il y a quelque chose de presque à chaque fois, c'est de l'expérience, c'est cocasse, enfin, on sent que tu t'amuses, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une... À part là, quand tu as mentionné cette jeune femme en Russie, il y a une maîtrise quand même de l'émotion.
Ouais, bon après, en vrai, je pense que c'est plus malgré nous, enfin malgré moi et la partenaire, quand tu es une couchsurfeuse, que tu es brésilienne, que tu fais le tour de l'Europe, que tu restes 2 jours à Bordeaux et qu'ensuite tu as le train le lendemain et que tu vas dans la ville prochaine, bah, tu perds contact, quoi. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que c'est super. Les personnes, après, tu les revois. Genre, j'ai eu des super relations avec des filles quand elles étaient à Bordeaux et je les ai revues sur leur continent, genre chez elles. Mm-hmm. Et c'est beau, quoi. Donc, les sentiments, ouais, je sais pas, je décorrèle complètement le cul des sentiments. Par contre, ouais, je vais pas te mentir, je rêverais de, ouais, d'aimer et d'être aimé, ouais. Vraiment.
T'as déjà eu une relation sexuelle, enfin en tout cas un coït, comme tu dis, avec du sentiment fort? Est-ce que t'as déjà fait l'amour?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'ai vraiment apprécié certaines femmes pour qui j'ai de l'admiration. Il y a vraiment des femmes avec qui j'ai eu des relations fortes humainement. Mm-hmm. J'ai hébergé, c'était il y a 5 ou 6 ans, 2 Palestiniennes chez moi. Et on avait eu un rapport qui était très fort.
Un rapport intime?
Oui. En fait, c'était très particulier.
À 3?
Oui, on a fait un point à 3. Et en fait, les deux étaient vierges. Parce que dans les pays musulmans, tu sais, avant le mariage...
Bien sûr.
Et donc, on avait commencé par discuter. Donc, elles étaient très soumises, en fait, à moi, non pas parce que j'étais l'homme, mais parce que je les hébergeais. C'est la première fois qu'elles faisaient du couchsurfing aussi. Si elles veulent paniquer, il ne se passera rien. Je trouve que c'est juste magnifique de pouvoir, en fait, passer une soirée avec des filles palestiniennes. Genre, c'est pas tous les jours que tu peux voir des palestiniennes à Bordeaux. Mm-hmm. Donc, c'est génial, tu apprends plein de trucs à ce niveau-là. Et après, ouais, elles étaient mignonnes sur les photos, même si elles étaient voilées, donc je sais pas trop. Enfin, tu vois un visage, donc c'est quand même super. Mais ouais, si elles veulent niquer, on va niquer. Mais c'était pas, si tu veux, le truc numéro un. Ce qui m'a toujours attiré, en fait, c'est la richesse des personnes.
Oui, c'est,
tu sais, si tu parles à une personne qui a eu la même vie que toi dans la même ville et qui a pas trop voyagé, bon, elle va pas t'apprendre grand chose. Quand t'as une Palestinienne qui a vécu des choses terribles dans son enfance, tu vas apprendre plein de trucs.
Donc elles viennent chez toi?
Ouais, elles viennent chez moi, elles sont très gênées, elles sont voilées. Elles me demandent l'autorisation d'enlever leur voile. Elles avaient acheté du foie gras un peu en scred, donc elles me disent: est-ce qu'on a le droit de manger du foie gras devant toi? Et moi, je dis: allez-y, enfin, parce qu'en fait elles avaient peur, parce que tu sais, leur religion est interdite. Et après, on avait fait un jeu d'alcool pour changer. Et tu sais, c'est action ou vérité un peu, en plus de l'alcool. Et donc tu fais, j'avais pas envie de trop rentrer dans leur intimité, parce que j'avais envie, mais j'ai pris d'être maladroit. Et j'osais pas trop leur demander, enfin, est-ce que, donc c'était des questions type: est-ce que t'as déjà un copain? Oui, non. Mais j'étais curieux, quoi. J'avais envie de savoir ce que c'était pour elle, en fait, avoir une relation. Et à un moment, il y en a une des deux, elle dit à l'autre: c'est quand la dernière fois que t'as eu un rapport? Donc on faisait le jeu en anglais pour m'aider, parce que enfin, je comprenais pas. Et en fait, elle répond, l'autre: c'était la semaine dernière. Et là, je leur pose la question et je leur dis: mais enfin. Tu viens de dire que t'as niqué la semaine dernière. Et la question d'avant, je leur demandais, parce que je savais que les musulmans, avant le mariage, c'était négatif. Elle m'avait dit que les deux étaient vierges. Et question suivante, la question, c'est...
La semaine dernière.
Ouais. Il y en a une... Elle me répond avec un naturel. Mais bah non, on n'a pas le droit de faire de pénétration vaginale. Nous, c'est que de l'anal. Mais tu sais... Et là, moi, je les admire. Enfin... Je suis émerveillé. Bon, c'est complètement ouf. Hein, terrible, hein, de devoir que des femmes soient contraintes. Elles ont tellement viniqué qu'elles sont obligées de faire de l'anal sans avoir touché au vaginal. Bon, je rentrerai pas sur ça. Mais en fait, voilà, ça, je pense que ça illustre bien, en fait, la richesse des échanges, quoi.
Et donc la soirée continue et vous...
Et on a niqué, on a fait un plan à trois.
Ok.
Mais il y en a qu'une des deux que j'ai sodomisée, à défaut de pouvoir faire une pénétration vaginale. Parce que, et l'autre, on s'est juste chopé. C'était pas un vrai plan à trois, comme ça peut être.
Mais bon, il y avait quand même 3 personnes dans la pièce.
Ouais. Et on était les 3 nus, donc c'était quand même cool.
Donc là, tu continues le couchsurfing pendant combien de temps?
Ah, mais à vie, j'en ferai...
Toute ta vie.
En fait, ça allait un peu crescendo. Mais c'est vrai qu'au début, deuxième, troisième année de médecine, là, c'était... J'y allais à fond, quoi. J'hébergeais, j'avais tout le temps des personnes chez moi.
Et t'es arrivé à faire tes études quand même?
Ouais. Après, les études de médecine, tu sais, quand en deuxième et troisième année... Tu te caresses, hein. c'est pas très dur.
Tu te fais caresser, en l'occurrence. Au-delà d'effectivement de scorer, de rencontrer du monde, etc., qu'est-ce que toi, ça t'apporte personnellement de multiplier comme ça les rencontres?
Ah, vraiment, c'est que de l'apprentissage, je te jure. En fait, aller trouver le plaisir, admirer le corps humain, je pense avoir vraiment niqué beaucoup de femmes différentes. Pas elle est mince, elle est grosse, non, mais... Elle a les yeux plissés, enfin, elle a les seins en forme de poire.
Tous les corps.
Ouais, exactement. Avec surtout une approche de la sexualité. Toutes les femmes du monde entier ont une sexualité très différente. Tu vois, il y a 10 jours, j'ai niqué une fille en Afrique. En l'occurrence, c'était un plan A4 qu'on a fait avec un ami à moi et une autre fille. Et la recherche du plaisir, que ce soit par l'homme ou par la femme, ça s'invente beaucoup plus à de la brutalité qu'à de la caresse. Ça va être un coït très court. Alors après, ça dépend, il y a de tout. Moi, je te parle de personnes qui vivent vraiment, qui ont grandi en Afrique, qui n'ont jamais mis le pied à l'extérieur du pays et qui sont influencées certainement pas par les... Enfin, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, mais en tout cas, quand on va te parler du sexe dans les zones que je fréquentais en Afrique de l'Ouest, c'est... voilà, il faut que tu fasses la fusée, il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses mal, il faut que tu sois puissant, quoi. C'est ça, t'as une expression...
On n'est pas sur le slow sex ou...
Non, du tout. T'as une expression... Donc là, récemment, je vivais en Côte d'Ivoire, et t'as une expression ivoirienne, c'est « tu vas la mougoumale ». Alors, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire ou la sous-région, ils vont comprendre. Mais tu vois, t'as ce côté vraiment... il mougou fort, mougou c'est niqué et mal quoi, tu vois, c'est ouais, tu vois, t'as comprends. Des chansons en zouglou qui sont trop cool que j'adore écouter, voilà, où on parle de ça et tu vas la mougou mal, et les filles en fait ne prennent pas mal. Est-ce que si je pense que si en boîte de nuit t'as une chanson qui dit je vais la prendre, je vais lui faire mal, je vais la défoncer, bon, c'est les femmes vont moins apprécier.
Ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement en Afrique de l'Ouest, dans ces pays là la sexualité est brutale et forte. Et...
Oui, et ça, je le vois aussi dans les hôpitaux. Quand tu vas dans les services dédiés, enfin, tu vois que tu as aussi un tabou autour du sexe. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois que c'est un problème, d'ailleurs. C'est aussi lié à un manque d'éducation, tout ça. Mais après, à travers le monde, tu vois que tu as des zones où le sexe est très différent. Au Japon, par exemple, ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de partir en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, alors j'ai malheureusement pas eu de relation, c'est impossible. Mais j'ai eu une relation qui était très forte avec une personne qui s'est occupée de moi. J'y suis allé pour travailler en Corée du Nord, ce qui est assez unique. Et,
moi, tu m'étonnes.
Et j'avais une personne en fait qui m'assistait. Et avec elle, on s'est fréquenté pendant seulement 10 jours. Hein. Mais tu vois, il y avait des regards, il y avait une complicité, il y avait une forme en fait. Alors, il n'y avait pas du tout de pénétration, il n'y avait rien du tout. Même pas un baiser, peut-être une bise, quoi, mais pas plus.
Mais il y avait une attraction.
Et je voyais ça aussi chez les autres Nord-Coréens. Ils sont beaucoup... La pudeur n'a rien à voir avec la pudeur qu'on a ici. Et tu vois, je trouvais aussi très bon, en fait, d'avoir une relation platonique, en fait, tu vois, avec cette personne. Il s'est remplacé, mais c'était très cool. Une forme d'amour, mais platonique. Enfin, c'était...
En tout cas, c'était une séduction.
Ouais, il y avait eu des caresses, tu vois, sur le corps, sur la main. Et un toucher, ça peut faire beaucoup.
On était loin de Maria et ses selfies, quoi.
Ouais, complet, ouais, ouais, ouais.
Est-ce que tu arrives à te rendre compte que ta sexualité, elle est assez unique ? Il y a peu d'hommes à ton âge qui ont eu autant de partenaires différentes, qui ont un rapport à la sexualité aussi décomplexé et qui se posent aussi finalement peu de questions dessus. Parce que tu le vis de façon très... on a l'impression que c'est comme manger, boire, respirer, quoi.
Mes copains, tu vois, qui sont aujourd'hui médecins, qui ont passé leur vie à l'hôpital et qui ont eu une copine avec qui ils ont fait les études, ouais, et qu'ils ont eu une dizaine de relations. Et les 10, elles sont françaises. Ouais, je vois qu'on est différents. Ça m'attriste, en vrai.
Parce que
je pense qu'ils se privent. Et je pense qu'il y a cette peur, un peu, d'aller vers l'étranger. Mm-hmm. Tu vois, moi, quand j'étais jeune et que j'avais la chance de voir... plein d'Espagnols qui débarquent. En fait, très naturellement, parce que tu es aussi innocent, tu es enfant, tu vas vers elles et tu réalises que en fait, tu peux les approcher, hein, elles vont pas te mordre. En fait, je pense avoir eu de la chance sur le coup. Et je pense que aussi j'étais courageux, parce que c'est pas évident, tu vois, de partir seul dans un pays.
Bien sûr.
La majorité des gens ont peur de le faire, alors qu'il faut pas.
Il y a des pratiques, au-delà effectivement de multiplier les partenaires étrangers qui viennent de cultures différentes, il y a des pratiques vers lesquelles tu as envie d'aller ?
Non, tu vois, après je suis jeune, hein, je suis pas encore attiré par tout ce qui est BDSM. Enfin, j'aime bien être dominant, j'aime bien être dominé avec certaines personnes en fonction du contexte, mais tu vois, c'est pas encore quelque chose qui m'attire particulièrement. Je pense que ça m'attirera, parce que je pense qu'à un moment, tu as envie d'essayer, tu as envie de te faire ligoter, que tu as envie de rigoler. Je sais pas, je pense qu'à un moment, je vais rencontrer une personne qui, comme moi, elle cherchera à explorer sa sexualité à fond, à aller rencontrer un maximum de personnes. Et il faudrait qu'elle soit aussi près de moi un peu tout le temps, genre par le contexte et le fruit du hasard, quoi, qu'elle soit médecin ou j'en sais rien. Alors aujourd'hui, moi, je vis en Afrique, donc c'est pas possible. Donc c'est sûr que pendant les 5 prochaines années, ma sexualité, ça sera que de l'apprentissage parce que je peux pas vivre à un endroit. Enfin, tous les mois, je bouge d'un pays à l'autre, donc c'est pas possible. Mais ouais, à un moment, je pense que je vais vouloir explorer une sexualité, peut-être où il y aura plus de sentiments.
Et qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur cette sexualité ? Parce que donc, tu parles beaucoup de tes rapports avec ces femmes. Hors tes partenaires, avec toi-même, comment ça se... Est-ce que tu consommes du porno ?
Ah oui, hein, que ça soit clair, la masturbation, c'est vital pour moi.
D'accord.
C'est vraiment quelque chose... Enfin, attends, après, ça a beaucoup évolué. J'avais une période en première année de médecine. Hein, c'était au moins bijournalier. C'était... Pour dormir, c'était obligatoire. En fait, même pendant les années lycée, d'ailleurs. J'arrivais pas à m'endormir si je me branlais pas. Encore aujourd'hui. Mais par contre, ouais, en fait, c'est quand même très chronophage de se branler. Ça prend du temps. Non, mais c'est vrai, ce que je dis, ça peut paraître bête.
T'as besoin d'un support ?
Non, non. En vrai, juste penser à une personne que j'ai croisée dans la rue, ça me suffit.
Hein. Ok.
Vraiment, il m'en faut peu pour bander. Hein.
Et le porno, tu en consommes toujours ?
J'en ai consommé beaucoup quand j'étais, tu vois, étudiant. Enfin, juste en première année, en fait. En première année, j'avais vraiment des gigaoctets, hein, des disques durs de porno, tous les Naughty America et compagnie. Ouais, c'était... Mais j'aime pas ça. J'aime pas le porno. C'est pourri, quoi. En vrai, ça me fait de la peine. Enfin, j'ai un petit cousin qui a 14-15 ans et... qui se ruine à regarder du porno. Bon, même si je faisais un peu pareil à son âge, mais je trouve que c'est dégueulasse parce que t'as pas un porno qui est adapté, qui est cool pour le spectateur. Par exemple, tu vois, je trouve que c'était beaucoup plus sain quand je regardais des surfeuses en bikini. Genre, c'est trop bien. Mm. C'est beau. Tu t'imagines plein de choses derrière.
Donc ta sexualité aujourd'hui, si tu devais la qualifier ?
En fait, moi, je trouve qu'elle est très frustrante dans le sens où j'arrive pas à avoir une... Quand j'arrive à revoir une personne que j'ai fréquentée, c'est souvent dans un autre pays ou dans un autre continent. Enfin, tu vois, toutes les personnes autour de moi qui ont des copains, copines, et je passe un an avec elles, et plus. Et... Bon, en vrai, je les admire, je sais pas comment ils font pour... Enfin, quand tu vois passer autant de belles personnes autour de toi pour rester qu'avec elles, j'en sais, c'est un truc...
Après, je pense que tout à chacun trouve son compte aussi, tu vois. Il y a des gens qui subissent, comme tu disais. Puis il y a des gens qui sont très heureux d'avoir le même partenaire ou la même partenaire pendant plusieurs années.
Je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'aussi, le jour où j'ai rencontré l'amour, genre où tu aimes vraiment une personne de façon très forte, je pense que ouais, là, clairement, tu peux te permettre ça.
Ça t'inquiète de le rencontrer, cet amour ?
Non, pas du tout. Ça me fera chier peut-être plus tard. En fait, je me dis que l'amour, ça peut être bien quand tu fais face à des difficultés. Genre, quand tu vis des moments qui sont durs. Je pense que c'est bien d'avoir un relais. Après, je me dis... que si j'ai des gosses, ils feront office de ça, en fait. En fait, je pense pas que ça soit vital. Que...
Alors, il faut généralement faire des enfants avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on passe un peu de temps.
Ouais, moi, je pense que ça sera pas le cas.
D'accord.
Moi, je pense que je vais me reproduire, avant tout.
Ok, si ce n'est pas déjà fait.
En fait, tu vois, j'ai pas eu l'amour d'un père. Et je pense que, malheureusement, à tort, je me dis que je ne donnerai pas l'amour à un enfant parce que... Pas parce que c'était un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu injuste, quoi, de ne pas avoir eu de père. Enfin, je pense que ça peut être bien de...
Ça l'est.
Mais après, je pense qu'on peut très bien se débrouiller sans. Ouais, je pense qu'en fait, je me mens, tout simplement. En fait, je pense que je rêve d'être un père. Ouais, clairement.
De réparer.
Et je pense que je rêve aussi, en fait, de tomber amoureux. Je pense que je rêve d'aimer une femme. Mais c'est juste que j'ai jamais vu ma mère aimer un homme. Et... Mm. Ouais, je pense que c'est mon rêve, mais que j'ose pas me le dire. Ouais. Je pense que je vais trouver une femme extraordinaire, moi, qui va me dire oh, arrête tes conneries.
Et ce sera une franco-française.
Putain, que dalle. Non, non, non. Ce sera une bonne Argentine qui aime bien le cul.
Putain, je rêve que dans 10 ans, tu m'appelles, tu me dis elle est auvergnate. Et elle est française sur 27 générations.
Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait sourire, mais qui m'a un petit peu vexé. Enfin, pas vexé. Je sais pas comment tu m'as catalogué. Enfin. Mais en fait, t'as dit ouais, 78, c'est un peu vieux pour toi.
Oui, j'ai dit que c'était... Oui, c'est vrai que c'est un peu vieux pour toi, 78. Mmh. C'est des femmes qui ont aujourd'hui, tac, 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 42. C'est pas... Non ?
Non, j'ai eu plusieurs relations avec des femmes...
Des femmes plus âgées que toi ?
Ouais, même bien plus âgées que 42. Ouais.
Genre des vraies milfs, quoi.
Ouais, même plus que milfs, ouais.
Ah ouais, j'avais eu, je sais pas s'il a écouté l'épisode avec Axel, qui lui avait comme king vraiment les femmes... très âgé.
Oui, putain, je l'ai écouté dans un bac à un petit bus africain. Non, moi j'ai... Je te la raconte, cette histoire.
Tout le monde attend que ça.
Ok. Bon, déjà, ok, je vais te mettre un peu de contexte. Parce qu'avec le contexte, je trouve que l'histoire est encore plus belle. C'était en 2015 et je viens sur Paris. Et donc, en gros, on décide de sortir. C'était début de soirée, c'était à 7h. Et en sortant du métro, en fait, on entend de... Enfin, il y a des personnes qui courent au loin, on ne sait pas ce qui se passe, et il y a des bruits assez stridents. Et en fait, très vite, ça devient un peu le chaos, avec des personnes qui courent plus vite et qui sont en train de crier « attentat ». Et en fait, c'était le 13 novembre de 2015. Et je me réfugie dans... Donc là, j'étais avec un ami et j'étais aussi avec un ami népalais que j'avais rencontré l'été d'avant, avec qui j'avais sympathisé. Et on s'était retrouvés sur Paris, c'était trop bien, quoi. Parce que moi, j'étais le seul copain qu'il avait rencontré au Népal et qui en est sympathisé. Et on se retrouve ensemble, là. Et là, ça commence, les gens courent, donc on se réfugie. Je suis avec le pote népalais dans une cage d'escalier. Pas une cage d'escalier, pardon. Comment t'appelles les halls? Mais comme ce que t'as là en bas de chez toi, là.
Ouais, une cour.
Ouais, une cour, exactement. Et en gros, on se cache dans la cour, planqué pendant 15-20 minutes. Il y a des ambulances qui passent. Enfin, c'est assez chaud. Ben, en fait, à un moment, t'as un flic qui arrive. Armé. C'était, je pense, à peu près... 20-30 minutes après qu'on soit planqué là, en vrai, on s'était dit on va se cacher, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive, il ne veut pas nous voir, et il voit qu'on n'a rien, on connaît deux pauvres mecs, et il part, et donc on sait pas quoi faire, donc on est dans cette cour, et là il y a une personne qui descend et qui nous dit montez, venez dans, vous réfugiez chez moi. Mon ami népalais, il est en flip total, genre déjà il parle pas français, enfin, il maîtrise un mot sur deux, donc il est largué complet. Et donc, en fait, on est cette personne. Mon pote népalais, il vrille complet, mais depuis le début... En fait, au début, quand on courait, il comprenait rien. Attentat, il comprenait pas. Donc, il était en train de sourire, limite de rigoler. Et après, quand je lui expliquais la situation, il flippait à mort. Et quand on arrive chez la personne, il se réfugie dans une chambre et il ferme à clé, il s'enferme. Et le lendemain, il m'expliquera qu'il s'est mis sous le lit tellement il avait peur. Et moi, je me retrouve avec la personne... donc on était dans le salon et on allume la télé, donc c'était BFM, et tu sais t'as toujours 7 heures de retard sur ce qui se passe vraiment, et donc ils annoncent, oui on a entendu une détonation au Stade de France parce qu'il y avait un match de foot en fait la soirée, et après voilà, il y a des attaques aussi dans le centre de Paris, un mort pour l'instant, et nous par la fenêtre on voyait les ambulances qui passaient, donc si tu veux c'était on comprenait que c'était pas un mort.
Après ils sont obligés
c'était François Hollande à l'époque, il disait le bilan il est en train de s'alourdir, et c'était terrible, et moi j'étais mal parce que t'avais pas de réseau non plus, ce qui était assez bizarre, mais enfin je pense que tout le monde devait essayer d'appeler au même moment pour savoir où étaient ses potes, donc ça saturait, donc t'es encore plus inquiet. Et donc moi je suis mal, quoi, et la personne avec qui j'étais elle me dit écoute, il faut se changer les esprits. Et donc, elle a ouvert une bouteille de champagne dans le frigo. Et donc, on a niqué, en fait.
Comme ça.
Et ouais, on a niqué, en fait.
C'était une femme qui vivait seule ?
C'était une femme veuve.
Ouais.
Qui, à l'époque, avait 63 ans.
Ah ouais.
Elle était de 53. Pas quel âge elle a aujourd'hui. Enfin, elle a plus que ça, elle dehors. Ouais.
Et ça s'est fait...
Et en fait, ouais, j'étais traumatisé par la situation. Et en fait, je me suis dit, mais c'est... En fait, moi, j'étais très frustré. Aussi, pour une autre raison, c'est que j'étais encore étudiant en médecine. Donc, je savais à peu près rien faire. Mais malgré tout, j'avais envie d'aider. J'avais envie d'aller, tu vois, s'il y avait des personnes, pouvoir prodiguer les premiers soins. Ce qui sert à rien. Elle me l'avait dit, écoute, t'es mignon, mais tu vas faire quoi? T'as déjà les médecins sur place. Tu peux te prendre une balle. Et te disant, en plus, à la télé, fermer les rideaux. Enfin, faire ce que dans la zone. Mais en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je me suis dit, mais c'est quoi, en fait, la meilleure réponse, quoi, à tous ces tueries? Je me suis dit, bon, mais c'est niqué, en fait. et on a niqué. Et c'était...
elle qui a amené ça ? C'est toi qui as amené ça ?
Tu vois, je t'ai dit, elle a ouvert une bouteille de champagne. Donc je pense que je me suis dit, champagne c'est cool, niquer c'est cool. Donc peut-être qu'on va avoir un coït.
Mais comment t'arrives à vriller la situation ? Parce qu'elle devait être aussi inquiète de son côté. Donc c'est toi qui impulse ça ?
Non, ça s'est vraiment fait naturellement.
Ok.
Mais genre vraiment, c'était... Et c'était beau. Je me souviens... On a ouvert le champagne, on l'a bu, et on se regardait de façon assez... Moi, j'étais paumé, je comprenais pas la situation, enfin, c'est fou quoi, de vivre
bien
ça.
Sûr.
Et je pense qu'elle percevait un peu ma détresse. Moi, elle était très calme, en fait, et je l'admirais pour ça. Genre, une facilité pour relativiser quelque chose que tu ne peux pas relativiser.
Bien sûr.
Et je pense qu'elle a su me mettre en confiance. Et vraiment, et le moment où je me suis dit, bon, nique-la, enfin, je me suis payé ça comme ça. Excuse-moi, je l'ai dit de façon assez vulgaire. Et en vrai, c'était assez fort, l'échange qu'on a eu. Et j'ai, tu vois, donc on a eu notre rapport, qui a été... Enfin, c'était particulier parce qu'en fait, quand t'as 20 ans, niquer une femme qui a 63 ans, c'est... Mais c'est très enrichissant. Pour te donner une idée, les... comment tu dis en anglais quoi ? C'est pas le trash talking. Enfin, c'est... Tu as plusieurs façons pour quand tu insultes tes partenaires. Tous ces mots que tu peux employer, c'est là où j'ai remarqué en fait la force des mots en français. C'était, tu vois, c'était des expressions anciennes en fait, d'une autre génération. Et c'est intéressant parce que, tu vois, il y a eu plein de trucs marrants, entre guillemets. Tu vois, avant de niquer, tu vois, je dis, attends, je vais mettre une capote. Elle me dit, mais pourquoi faire ? Et je trouve magnifique, en fait, comme réponse.
Bien sûr.
Genre, c'est bon, t'es libérée, tu t'en bats les couilles, quoi.
Je vais pas tomber enceinte, ça peut pas arriver.
On peut toujours avoir une MST, hein. Et c'est toujours bien, on le rappelle, d'utiliser tes préservatifs. Attention, s'il vous plaît, les auditeurs.
Complètement.
Mais, ouais.
Et si tu t'en rappelles, alors j'imagine que tu devais être quand même assez choquée dans un état un peu second, mais... Tu te rappelles de score d'une femme de 63 ans ?
Que je lui mettrais, là ?
Enfin, non, alors, pas la note, hein, je te demande. Mais
ah,
le
tu m'en mets la note ?
Non, je te demandais comment. Est-ce que tu te rappelles
du
corps ?
Ah oui, très bien.
Et après... est-ce que ça t'a... Après, t'as un rapport au corps qui est un peu différent.
Tes exigences, elles sont très différentes. Tu n'attends pas à ce qu'elle ait des putains de fesses bombées toutes mignonnes. Tu vas juste attendre d'elle, en fait, qu'elle te partage son savoir, son vécu et les émotions. Genre, c'est quelque chose d'autre que tu recherches, quoi. T'attends pas à ce qu'elle se mette en grand écart sur toi, non.
Quoique, tu sais.
Putain, non.
Ex-prof de yoga, tu sais pas ce qu'il va se passer.
Alors, elle, non, elle était infirmière de formation, je m'en souviens. Elle était retraitée. Hein. Après, donc, pour revenir à ta question, son corps, pour une femme de 60 ans, elle était... Enfin, les femmes de 60 ans, je trouve qu'elles sont bien. Je trouve que ça dérègle plus vers 75. Sincèrement, je le pense. Hein. Après, bon, ça m'attire pas particulièrement. En fait, c'est juste que sur le moment, bon, voilà, c'est arrivé très bien. Elle faisait de la natation, donc elle était quand même, tu vois, elle avait un beau corps. Elle avait quelques rides, elle avait des rides, oui. C'était une femme de 63 ans, donc elle était âgée. Putain, alors ça, je m'en souviens. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir des rapports avec des femmes qui avaient 40 ans. Et inévitablement, avec l'âge, en fait, une femme va jouir beaucoup plus facilement. Oui, je trouve que femme fontaine, c'est un peu péjoratif. Je sais pas comment tu peux dire ça avec des... Bon, mais en tout cas, on pourrait qualifier cette personne, Christine, de femme fontaine, même si je trouve que c'est pas très sympa vis-à-vis d'elle. Mais ouais, elle mouillait à n'en plus finir, quoi. C'était particulier. Et après, pendant le rapport, tu vois, c'était tous ces mots. C'était du fais-moi l'amour, tu sais. C'est des tournures.
Des tendres, quoi.
Ouais. C'était pas vas-y, baise-moi, prends-moi, genre. C'est... Et tu vois, pour ça, je regrette pas.
Okay.
Et après, on est resté en contact. C'est marrant. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était le jour de l'élection d'Emmanuel Macron. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'étais quelqu'un de brillant. Et en fait, c'est agréable, hein, de recevoir des compliments venant d'une personne qui a plus d'âge, parce que t'as plus de maturité. Donc, je trouvais ça sympa. Mais après, tu vois, j'avais pas, si tu veux, dans ma checklist, ni qu'une femme de plus de 60 ans, pas du tout.
Et t'as justement, dans ta checklist, t'as des fantasmes comme ça, de femmes ? De type de femmes ?
Non.
D'hommes ?
Non.
Pas du tout ?
Non. Après, tu vois, les hommes, tu me demandais tout à l'heure.
Ouais.
Bah, en fait, j'ai fait souvent des plans à trois, avec des filles, avec des hommes. Bon, tu vois, là, quand je te racontais les darkrooms en Europe de l'Est, bon, t'as des hommes autour, je suis pas du tout mal à l'aise à l'idée qu'il y ait des mecs, des hommes en train de niquer d'autres filles à côté. Et après, quand j'ai fait des plans à trois avec, notamment avec Flo, là, mon copain dentiste, avec des filles, avec d'autres copains, d'ailleurs en médecine ou autre. En fait, moi, je suis très à l'aise avec le corps de l'homme.
Tu le désires pas ?
Tu vois, Flo, par exemple, il est très musclé. Il a un très beau corps. Alors moi, je suis pas trop musclé. Pas dire pas très musclé. Mais quand même, pour les auditrices, on va laisser une once de suspense. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, si vous m'écoutez actuellement...
Je ne dis rien. On laisse la magie de la voix opérer.
Et lui, tu vois, il est plus petit que moi, il est plus costaud. Et ouais, tu vois, clairement, enfin, je trouve sexy, quoi, les muscles. Voilà, il a un corps qui est stylé, quoi, qui travaille, en fait. Il aime son corps. Et je trouve ça me touche, quoi, qu'il aime son corps. Donc, je me dis, il aime, donc
il faut le rendre.
Ouais, voilà. Non, donc, tu vois, parfois, quand on fait des plans à trois... je sais pas, en fait j'ai jamais eu envie de le sucer, j'ai jamais eu envie qu'il m'encule, non. En fait tu vois, dormir à côté de lui, pas lui faire des caresses, mais en fait j'ai pas cette attirance pour lui, du tout.
T'as pas de désir pour le corps masculin?
Non, du tout. Par contre tu vois, ben là c'était, je suis allé faire, c'était en Afrique, dans une capitale africaine, je suis allé faire une soirée qui était... cool avec... alors, j'aime pas traîner avec des expats parce que c'est jamais intéressant. Mais en fait, j'avais un coloc quand je suis arrivé en Afrique qui venait... Alors, lui, du Pérou. C'est un Péruvien qui est exclusivement gay et qui rêve, en fait, de niquer des hétéros. Lui, c'est son rêve. Ah. Et en fait, tu vois, il me faisait de la peine un peu par rapport à ça parce qu'il me rentrait dedans. Et donc, je l'ai chopé pour lui faire plaisir. C'est vraiment, on dansait, on s'embrassait. Après, on est parti aux toilettes parce qu'il voulait me sucer. J'étais pas contre l'idée, en fait, qu'il me suce. J'étais bourré, j'étais fracassé. Et à un moment, je sais pas, j'ai eu une sorte de... Qu'est-ce que tu branles, là? Enfin, c'est... Arrête tes conneries. Ouais. Enfin, je vais dire un truc qui est un peu cru et bête, mais... Une bouche est une bouche. Et ouais, du coup, ça se fait pas parce que, bah, sûrement, j'en ai pas envie. Après, tu vois, embrasser un mec, ça me fait rien. Et je pense que même, tu vois, me faire sucer, si je vois qu'il est content, je serais content. Mais enfin, je te dis ça, mais pas sûr que je sois capable de bander parce que peut-être qu'inconsciemment, je vais me dire, ouais, c'est un mec, c'est bizarre. Mais par contre, ouais, ça me ferait plaisir, en fait, pour lui. Enfin, si c'est son rêve de me sucer, il va me sucer. Vraiment, par gentillesse, je vais le faire, mais sans prendre de plaisir.
Quelle gentillesse, quel don de soi.
Non, mais c'est vrai, après tout. Okay. Mais par contre, je me suis posé la même question, genre, est-ce qu'il rêve que je le sodomise? C'est un peu... Est-ce que j'en ai parlé de ça à Flo, là, mon pote dont je te parle, qui a un joli corps? Oui, en fait, je lui demandais, mais c'est à partir de... Enfin, c'est lui qui me disait, mais enfin, si tu te fais sucer par un mec, ou si t'encules un mec, ça fait toi un gay. Et en fait...
Pas du tout.
Ouais, mais en fait, c'est intéressant, parce que... Je sais pas, je pars du principe que quand même si t'as un rapport avec un mec, tu as un rapport homosexuel, ce qui fait de...
Qu'est-ce qui ne fait pas de toi un homosexuel?
Bon, c'est quoi un homosexuel?
La pratique ne fait pas de tout. Si tu, par exemple, si toi tu aimes te faire sodomiser et t'aimes la pénétration anale, c'est une pratique, c'est pas ta sexualité. Ben là, c'est pareil, si tu peux avoir un rapport avec un homme pour essayer ou tu fais des plans à trois avec un mec, ça fait pas de toi forcément un homosexuel. Mais... Non, le problème de l'hétérosexualité et de l'homosexualité, c'est que sous couvert de ces mots-là, il y a, donc on parle de sexualité, mais c'est surtout aussi le lien émotionnel qu'il y a. Tu ne vas pas tomber amoureux d'un homme? Si?
Ah non, pas du tout. Ça je ne serais pas capable, je pense. Enfin, ok. Mais non, j'ai jamais connu l'amour, donc je ne peux pas te répondre. Mais parce que pour moi, avoir une amitié très forte, c'est ça, avoir de l'amour pour une personne. Mmh, enfin, d'accord. Ce qui n'est deux choses différentes en réalité. Enfin, je pense. En fait, tu vois, j'ai appris pourtant que dans la mythologie grecque, les Grecs étaient très souvent homosexuels parce qu'en plus de leur femme, ils avaient un amant avec qui ils avaient des relations.
Les fameux pédérastes, ça vient de là.
D'accord, j'ignorais. D'accord, c'est pour ça qu'on dit « Oh, le PD, de pédéraste, qui vient de la mythologie grecque. »
Ouais, exactement.
Bon, ok, donc pour moi, en fait, je pensais qu'on qualifiait d'homosexuel une personne qui a un rapport... Non, mais... Okay, donc...
Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de se qualifier, de mettre des étiquettes?
Ouais, non, pas du tout. Je pense qu'il faut juste y aller si on le sent.
Exactement.
Pas, mais, donc ouais, je pense que je vais tout essayer. En tout cas, je pense que je suis parti pour et je suis jeune encore. Donc je pense qu'à un moment, je me retrouverai à le faire. Mais après, ouais, non, c'est clairement pas quelque chose qui me donne envie. Mais vraiment, je vais y aller par curiosité.
Okay.
Je vais me dire...
Et peut-être par rencontre aussi. Peut-être qu'il y a un mec qui va te donner plus envie qu'un autre, tu vois. Ma dernière question, enfin, en tout cas, ce que j'avais envie de savoir, c'est quoi ton regard sur aujourd'hui la déconstruction qui est en train de s'opérer?
Okay. Moi, je ne l'aperçois pas, cette déconstruction.
Parce
tu veux
que
dire à cause des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie?
Alors toi,
là,
tu dis... Donc déjà, j'ai une réponse à ma question, puisque tu dis à cause et non grâce à.
Depuis que tu as accès à Internet et que tu as accès à toutes ces saloperies que tu peux trouver dessus, ouais. Moi, je pense que ça détruit en fait complètement la beauté de la sexualité.
Okay.
Alors, je ne suis pas capable de savoir si ça répond à ta question. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire maintenant. Bon, alors, j'ai essayé de la compléter parce que je suis pas niais et j'arrive un peu à comprendre quand même. Inévitablement, l'accès à Internet et avec tous ces réseaux sociaux, ça augmente, ça diminue considérablement la confiance qu'on peut avoir en soi. Mm-hmm. Enfin, moi, de mon expérience, les bons coups que j'ai eus, Et en vrai, j'en ai eu avec pas mal de femmes, tout étrangère. J'en ai pas eu avec une française en banque. Dans mon tableau, tu sais, je mets une note aussi sur le rapport, l'acte sexuel, okay. Et après la relation en tout, en dehors de ça. Je sais pas si c'est une question qui est pour lien avec ta question, mais c'est quoi un bon coup ? Enfin, mm-hmm. Pour moi, c'est important de répondre à ça pour
alors,
parler
bon
de cette génération. Mm-hmm. Un bon coup, c'est une personne qui a envie de... mais déjà, qui est bien dans son corps. Tu ne peux pas être un bon coup si tu n'as pas confiance en toi. Mais genre, vraiment. Mm-hmm. Et en l'occurrence, je pense que toute la génération, là, aujourd'hui... je sais pas si tu connais... Enfin, oui, tu connais TikTok, j'imagine. moi, j'ai découvert ça assez récemment. En fait, c'est beaucoup utilisé en Afrique, malheureusement. C'est que des meufs, tu sais, en train de faire des petits pas de danse, et hop, un petit coup de hanche à droite, à gauche... à moitié à poil, et je sais pas, je me mets à la place d'une femme 2 secondes, genre je pense que je n'y arriverai pas quoi, à faire exactement ce que je vois, donc ça doit t'attrister. Tu dis que tous les mecs, ils aiment ce genre de femme-là, donc c'est vilain. Moi, ça m'attriste vraiment. D'un côté, l'ancienne génération, je trouve que c'était très triste. Mes grands-parents qui ont eu peu de partenaires différents, je trouve que c'est quand même... très triste, et je trouve que c'est magnifique quand même la mondialisation pour ça. Le fait de pouvoir voyager, non mais c'est bête, mais pouvoir prendre un avion et se retrouver entouré de enfin, je te jure, tu vas en Bolivie, les Boliviennes, bon, alors certains les trouvent pas particulièrement belles, moi je les trouve belles, enfin, comme toutes les femmes de tous les pays à peu près, mais c'est un luxe de pouvoir voyager, se retrouver avec une femme qui a un rapport au corps qui a rien à voir. Donc je sais pas si je suis toujours dans le scope de ta question, mais en tout cas je pense que c'est très dur de enfin, quand je porte un regard sur la nouvelle génération, bah, je me dis que c'est magnifique cette chance de pouvoir augmenter les échanges. Je sais pas si on peut parler d'interracial, mais en tout cas, non, parler de race, ça se fait pas en français, en anglais ça se fait. Et c'est...
Interculturel.
Interculturel, oui. D'ailleurs, je trouve peut-être que c'est un peu. Il y a des sujets comme ça qu'on s'interdit de parler, de mâle et de femelle. Mmh. Enfin, bon, venant du monde médical, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de très grave. Hein. Donc, moi je pense qu'il y a une opportunité, mais je pense que c'est terrible pour toute cette génération. D'idolâtrer, et je le vois aussi avec ouais, j'ai un cousin qui est jeune, qui a 14-15 ans et qui admire des mecs qui ne devraient pas être admirés quoi. Est-ce que tu peux reformuler ta question pour que je fasse une conclusion?
Non, c'est intéressant, en fait je te demandais le regard que tu portais sur cette génération, cette nouvelle génération.
Mais c'est-à-dire quoi, qui se déconstruit,
qui se déconstruit aujourd'hui, ou le rapport en tout cas l'égalité sexuelle entre les hommes et les femmes se fait entendre, sur les pratiques, sur les nanas qui se réapproprient leur corps, leur plaisir, et les garçons qui de plus en plus, tu vois, on met beaucoup la question du consentement au sein des relations. Tout ça.
Oui, très bien, ok. Ouais, parlons du consentement, parce que moi j'ai un regard qui, je pense, va énerver peut-être plus d'une personne, mais je vais l'argumenter, donc je pense que les gens vont me comprendre. Moi, tu vois, je vois aussi à travers les soirées médecine, parce que j'en fais quand même de temps en temps, je vois que les mecs ont peur, mais réellement peur d'aller, des garçons, tu vois, qui ont la vingtaine, qui ont peur d'aller séduire la femme.
La femme.
Le sexe féminin. D'accord. Quoi, parce que, bon, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que je pense que, enfin voilà, non, c'est non. Si ton partenaire a dit non une fois, allez, t'arrêtes. Mais par contre, quand même, que tu sois homme ou femme d'ailleurs, n'aie pas peur, vas-y, aie le courage de faire n'importe quoi jusqu'à ce que la personne elle te dise non. Je pense que le consentement c'est vital, je pense qu'on devrait inciter toutes les personnes à avoir un consentement très clair, très explicite, mais il faut pas que les gens aient peur en fait d'aller savoir putain est-ce qu'il y a le consentement ou pas. En fait moi ça me désole de voir des personnes qui niquent pas parce qu'ils ont peur d'aller l'un vers l'autre et ils rentrent seuls le soir chez eux alors qu'ils pourraient se retrouver dans le lit de l'autre. Et moi ça me fait de la peine, parce que avec toute cette pression que t'as sur un peu les épaules, ouais putain on va dire que j'ai violé un tel, on se fait tellement une paranoïa de ça qu'on n'ose pas en fait savoir si la personne en a envie ou pas. Et moi je vais pas te mentir, je me prends un nombre de non très important quand j'en boîte de nuit, ouais je m'en prends plein, mais parfois j'ai un oui sur 10 et c'est cool,
c'est ok.
Ouais, voilà, faut juste ne pas forcer.
Ce sera quoi le mot de la fin, Erland Deco?
Voyager et niquer dès que vous pouvez.
Je te remercie. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Erland Deco pour sa confiance et son naturel. C'était une rencontre très intéressante et je le remercie. Donc il a fallu effectivement de notre entretien enregistré que j'arrive à en garder une heure et quart pour le format du podcast. En tout cas, c'est toujours, je trouve intéressant de rencontrer des gens qui ont une toute autre vision du monde, de la sexualité, du rapport à tout ça. J'espère aussi que vous, ça vous permet de vous nourrir, d'ouvrir des horizons. Et je crois vraiment que c'est le dessein de ce podcast, c'est de s'ouvrir et de réfléchir à tout ce qui nous entoure et à l'autre. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'On the Verge.